Chat-perché par Richard Keller, chapitre 11. Gilles occupa sa matinée à passer des coups de fil. Il appela l'ambassade de Chine et demanda l'attaché culturel. Une voix nasillarde lui répondit que celui-ci recevait uniquement sur rendez-vous et qu'il n'était pas possible de converser avec lui au téléphone. Il ne se démonta pas, disant qu'il savait cela et qu'il désirait être rappelé à sa brigade de recherche de la gendarmerie. La voix se fit plus douce en sollicitant son interlocuteur. Qui devait-elle annoncer? Il jubilait. Le mot gendarmerie ouvrait les portes. C'était un précieux sésame. Allô, Chang Ke-liang, je vous écoute. Bonjour, monsieur. Gendarme Gilles. Je souhaiterais parler avec l'attaché culturel. C'est moi-même. Que puis-je pour votre service? L'homme s'exprimait dans un français parfait. Sans accent. Ce devait être un francophone averti, se disait Gilles. Je suis à la recherche de renseignements sur une pratique ancestrale chinoise. De quoi s'agit-il, monsieur? Dans le cadre d'une enquête, j'aimerais parler avec vous des graveurs sur grain de riz. Effectivement, il s'agit d'une activité très ancienne. De nos jours, les virtuoses sont rares. Justement, monsieur Liang, connaissez-vous des spécialistes opérant sur le territoire français? Pas à ma connaissance. Comme je vous l'ai dit, il y a peu de spécialistes dignes de ce nom. Bien sûr, vous trouverez en Chine, sur les sites touristiques, des pseudo-graveurs. Leur travail est sommaire et se limite à une inscription sur le grain. Tout dépend du sens de l'information que vous désirez. Disons que l'artiste a stylisé un signe du zodiaque chinois sur une face et un mot écrit en français sur l'autre. D'accord. Sans avoir vu les pièces, je pense que nous avons affaire à une réalisation assez simple. Je persiste dans mon idée. Je ne vois pas sur votre territoire un compatriote réaliser ce genre de choses. J'ai effectué des recherches sur ce sujet et je dois avouer un manque de matière. Aussi bien dans les bibliothèques que sur Internet. C'est un peu comme en France, certains métiers d'art qui sont confidentiels. Parlez-moi de la dorure sur vitrail. Je crois qu'il reste moins de 5 spécialistes en exercice. Vous avez raison. Quel est l'artiste le meilleur dans ce domaine? Le plus connu est Ku Ru. Il est âgé et vit à Xian. Gilles percuta immédiatement sur les propos de l'attaché culturel. Monsieur Curu vivait à Xian. Les chats regardaient eux aussi dans cette direction, et les grains de riz étaient originaires de cette région. Est-ce que ce vieil homme voyage de temps à autre, monsieur Liang? Compte tenu de son grand âge, c'est improbable. Si vous le souhaitez, je peux me renseigner. Ce n'est pas nécessaire dans l'état actuel de nos investigations. Merci beaucoup. J'aurai une dernière question à vous poser. Je vous écoute. Elle est un peu saugrenue. Je voudrais savoir si vous avez connaissance d'une variété de riz qui pousse à Xian. Votre demande est surprenante. En effet, je suis attaché culturel, pas agriculturel. Pourtant, il existe d'innombrables variétés. L'ambassade ne vérifie pas l'importation en France. Monsieur Liang, je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé ces quelques minutes. Je vous souhaite une bonne journée. À votre disposition, monsieur Gilles. N'hésitez pas à me contacter si vous désirez d'autres explications sur les arts de mon pays. Au revoir. La conversation échangée n'avait apporté qu'une infime et insignifiante éclaircie dans le brouillard épais de l'enquête. Gilles, conscient que le temps jouait contre lui, se donnait sans compter. Il mit rapidement ses idées en forme, se remémora tous les points abordés avec Liang et passa à autre chose. Le carillon du château sonna 10 heures. Il composa le numéro de l'association des amitiés franco-chinoises. À la 3e sonnerie, la communication fut établie. Il pâlit. Un répondeur égrena le sempiternel message. Nous sommes absents. La permanence a lieu tous les lundis et jeudis de 19h à 21h. En cas d'urgence, vous pouvez joindre le président au... Il nota le numéro et raccrocha en pestant contre la malchance. Le gain de technologie, je vous écoute. Gendarmerie nationale. Gendarme Gilles, je souhaite parler à Monsieur Armel Le Guern. Ne quittez pas, je vous le passe. Allô? Je vous demande juste un instant. Monsieur Le Guern est en communication sur une autre ligne. Dois-je vous mettre en attente ou bien laisser un message? Je préfère attendre un peu. Entendu. Je vous le passe dès qu'il libère la ligne. Le standard diffusait un tube des Beatles. Il apprécia. Au deuxième passage, il se dit qu'ils auraient pu mettre des chansons différentes. Au troisième passage, la chanson s'interrompit pour laisser place à une sonnerie. Armel Le Guern, bonjour. Bonjour, monsieur Le Guern. Gendarme Gilles de la brigade de recherche. Je vous appelle au sujet des amitiés franco-chinoises. Que puis-je pour vous? Nous enquêtons actuellement sur une affaire où des ressortissants de la communauté asiatique semblent impliqués. Dans ce cadre, nous avons besoin de renseignements de la part de personnes introduites dans ce milieu. Si je peux vous aider, ce sera avec plaisir. Ma première question concerne les arts pratiqués en Chine. Votre association a-t-elle procédé à des échanges culturels en faisant venir des artistes chinois? Oui. Nous avons fait une exposition sur le thème des objets et tableaux laqués. Quand a eu lieu cette manifestation? Il y a environ 8 mois. Avez-vous fait venir un graveur sur grain de riz? Non, le thème était la laque. De plus, la gravure sur le riz est confidentielle et peu prisée des autorités qui l'ont bannie pendant des décennies. Aujourd'hui, elle commence sa réhabilitation. Nous cherchons un graveur évoluant sur le territoire national. Cela vous inspire-t-il une piste? Pas le moins du monde. Mais j'ai un ami chinois qui connaît cette pratique et qui pourrait vous éclairer plus que moi. Malheureusement, il est parti pour quelques semaines dans son pays d'origine. J'en prends bonne note. Si les autres investigations n'aboutissent pas, je ferai de nouveau appel à vos services. Je voulais vous demander aussi si votre association travaille avec une agence de voyage en particulier. Oui, Dragon Voyage est une agence tenue par un homme d'origine chinoise, par sa mère. Presque tous les voyages organisés par Amitié Franco-Chinoise sont achetés par son intermédiaire. Merci, monsieur Le Guern, en vous priant de m'excuser pour le temps précieux que je vous ai fait perdre. Non, vous aviez besoin de renseignements et le président de cette association ne pouvait se dérober, ne vous excusez pas. Alors encore merci et bonne journée. À vous aussi et à bientôt. L'enquêteur apprécia le ton de son interlocuteur. En bon chef d'entreprise, il sut aller à l'essentiel en donnant les explications nécessaires. Rien n'était superflu dans ses propos. Quelques points titillaient les neurones de Gilles. Le premier concernait l'exposition de l'acte chinoise. Il était impossible qu'un artiste soit l'auteur de la gravure des grains. Le premier meurtre ayant eu lieu plus de 2 ans avant cette manifestation. Un autre point intéressant concernait le ressortissant chinois connaissant le domaine de la gravure. Malheureusement, il ne pourrait être auditionné avant leur départ. La dernière révélation ouvrait aussi un champ d'investigation. Il s'agissait de l'agence Dragon Voyage. La vérification des voyageurs serait grandement facilitée. Il envisageait de la joindre à son contrôle des compagnies aériennes. À midi, il rejoignit Sagol aux messes de la brigade. Ils prirent le repas ensemble. Il remarqua immédiatement sa mine renfrognée. Il prit son temps avant d'embrayer sur le travail du matin. Il devait lui laisser le temps d'évacuer sa mauvaise humeur. Ensuite seulement, il pourrait parler sereinement. Tout au long du repas, ils n'échangèrent que des banalités. Gilles proposa d'aller boire le café à l'extérieur. Ils se dirigèrent vers le pub. Gilles chérissait particulièrement la musique et l'ambiance agréable. Ils s'installèrent dans un renfoncement un peu à l'écart. Sagol recouvrait sa physionomie habituelle. Des années de collaboration permettaient à Gilles de deviner ses tourments, et là, manifestement, il commençait à se dérider. Il fit état de ses investigations auprès de l'attaché culturel et du président des amitiés franco-chinoises. Sagol apprécia le travail de son subordonné, tout particulièrement l'idée de recouper les informations auprès des compagnies aériennes au niveau de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Gilles se chargerait de cette tâche dès que possible. À son tour, Sagol relata ses visites à la Perle de Jade, au Dragon Gourmand et au Gourmet Mandarin. Rien de concret. Cela ressemblait plus à des visites de courtoisie. Mais on ne sait jamais. Il attendait les appels des patrons des restaurants pour en tirer des conclusions définitives. Cet après-midi-là, il terminerait sa tournée par la visite de la Pagode Céleste, le dernier restaurant chinois ouvert dans la région. Il fonctionnait depuis un an et avait acquis une réputation sulfureuse. On rapportait que des soirées privées, très spéciales, étaient organisées. La rumeur colportait que les convives et les serveuses évoluaient entièrement nus et que les mets étaient consommés à même le corps des participants. Rien n'avait été prouvé et ceux qui véhiculaient ces ragots ne contribuaient pas de près ou de loin à ces agapes. Ils se souhaitèrent bonne chance et chacun partit de son côté. Gilles s'occuperait des compagnies aériennes et Sagol de la Pagode Céleste. Dès son entrée dans le restaurant, Sagol constata qu'il n'existait plus grand-chose de commun avec les établissements visités le matin. La décoration et le personnel étaient très différents. Des tentures servaient de paravent. Partout des statues de couples ou de femmes nues dans des positions suggestives attiraient les regards. Des serveuses, vêtues de robes moulantes, dont le tissu de couleur pastel laissait entrevoir des formes où pas le moindre sous-vêtement ne venait contrarier la pureté des lignes. Aucun doute, le ton était donné. Une serveuse s'approcha de lui. Ce dernier demanda à voir M. Kwan. Elle l'entraîna dans une pièce sombre où de rares spots éclairaient une petite partie de la salle. La fille, placée dans le rayon de la lampe, semblait ne porter aucun vêtement. Il comprenait mieux le sens de la rumeur concernant l'activité de ce commerce. Le tableau était touchant, mais il fit abstraction du spectacle. D'origine chinoise et âgé d'une cinquantaine d'années, M. Kwan possédait depuis longtemps la nationalité française. Il se leva pour serrer la main de son visiteur. Il était avenant et son léger embonpoint le rendait encore plus sympathique. Sagol lui fit part de ses recherches. Comme le matin, il s'entendit donner des réponses identiques. Décidément, la gravure sur grain de riz n'était pas en vogue dans le coin. M. Kwan proposa un thé au jasmin qu'il ne put refuser. L'homme, intelligent, percevait l'embarras de son interlocuteur. Il se demandait pourquoi la recherche d'un graveur revêtait tant d'importance. Malgré les tergiversations et des manœuvres habiles, Sagol ne dévoila pas les raisons de ses recherches. L'homme n'insista pas. La serveuse attendait toujours dans la lumière. Il ne voulait pas laisser deviner au restaurateur qu'il appréciait la beauté de la jeune fille. Il convenait de tenir son rang. Après la dégustation du thé et l'échange de conventionnelle amabilité, il prit congé et regagna son bureau. Gilles contacta l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Son idée aboutit à une impasse. Aucun vol direct n'était enregistré au départ ou à l'arrivée entre la cité lyonnaise et le pays de l'Empire céleste. La plupart des avions faisaient escale à Paris, Amsterdam ou Francfort. Il existait quelques vols charters de temps à autre. Il décida d'abandonner cette piste et de consacrer son temps auprès de l'agence Dragon Voyage. Le patron de l'officine se nommait Joël Noche, spécialisé dans les destinations de l'Asie du Sud-Est. La clientèle en partance pour la Chine était marginale, l'essentiel des offres se situant vers la Thaïlande et le Népal. Il réussit à le joindre. Celui-ci répondit favorablement à sa demande en le recevant dans l'après-midi. Joël Noche se trouvait dans la salle d'accueil de l'agence lorsqu'il se présenta. Élégant dans son costume clair, l'homme bronzé aux cheveux blancs bouclés devait avoir environ 35 ans. Ses deux collaboratrices portaient des chemisiers de la même couleur. Gilles en déduisit, à juste titre, qu'il s'agissait de l'uniforme de la maison. Noche invita son visiteur à le suivre jusque dans son bureau. Une pièce agréable avec des posters de paysages enchanteurs commercialisés par Dragon Voyage. De nombreuses plantes vertes agrémentaient les lieux. Le mobilier moderne, spartiate, se composait d'un bureau, de deux fauteuils et d'une armoire. Après les échanges habituels de politesse, Gilles entra dans le vif du sujet. Il indiqua à son interlocuteur le but de sa visite. Il précisa qu'il cherchait une personne ayant la capacité de graver sur des grains de riz. Le patron de l'agence fronça les sourcils. Ne possédant pas tous les éléments du problème, il avait du mal à comprendre le but de la démarche. Il se douta que son interlocuteur ne lui communiquait qu'une partie des éléments. Néanmoins, il collabora pleinement. Il savait qu'il pouvait exiger une commission rogatoire avant de donner des informations. Il considéra que cela ferait perdre du temps à l'enquêteur. Le voyagiste pianota sur le clavier de son ordinateur portable. Suite à la demande de son visiteur, il requêta pour obtenir la liste de ses clients, ayant choisi de voyager en Chine. Il entra plusieurs paramètres. Les achats de moins de 2 ans, les adhérents de l'association Amitié franco-chinoise, les preneurs de séjour, et enfin ceux qui n'achetèrent que le billet d'avion. 218 noms furent sélectionnés. Il imprima le listing sur 5 feuilles. Les deux hommes discutèrent longuement sur le profil de chaque personne. Outre l'état civil, l'agence possédait toutes les coordonnées nécessaires à l'établissement de billets d'avion. Date de naissance, référence des passeports, ainsi que les métiers, adresses et numéros de téléphone de chaque client. Gilles procéda à un écrémage rigoureux. Il élimina les couples avec enfants, ayant choisi la formule du séjour tout compris. Il rejeta aussi les personnes de plus de 70 ans. Il garda dans sa liste ceux dont le nom laissait supposer des origines chinoises ou asiatiques. Il resta 28 personnes. Joël Noche donna rapidement quelques détails sur les clients qu'il connaissait personnellement. Pour les autres, il fournit à Gilles les données complètes extraites du fichier. Ce dernier sortit satisfait de l'agence Dragon Voyage. Pour la première fois, il trouvait de la matière à se mettre sous la dent. Dès son retour au bureau, Sagol reçut un appel téléphonique de la part de Nguyen, le gérant de la Perle de Jade. Il respectait sa parole. Il lui fit part de son embarras. Malgré, selon ses dires, de nombreux contacts, il ne pouvait répondre favorablement. Aucune information ne circulait sur un éventuel graveur sur grain de riz évoluant dans l'Hexagone. Il le remercia vivement. Il fallait souligner l'effort de son interlocuteur. 10 minutes plus tard, ce fut au tour de Van Luyck de le joindre. Il tint un discours similaire. Le patron du gourmet mandarin s'était beaucoup démené pour obtenir le renseignement tant espéré. Bien en vain. Sagol se demandait si les grains de riz de Mélanie ne demeureraient pas une énigme pour lui. Gilles arriva à son tour. Son supérieur lisait et relisait les conclusions de l'autopsie. Il épluchait le rapport sur la mort de Louise Chauvier à la recherche de la petite étincelle qui l'amènerait vers la lumière. De toute évidence, les dossiers restaient muets. Il aurait aimé se trouver à des milliers de kilomètres de là, sous les cocotiers, en train de humer les alizés chargés de senteurs tropicales. Gilles lui relata sa visite à l'agence Dragon Voyage. Cela leur redonna un peu de mordant. Ils allaient pouvoir travailler sur les 28 noms. Ils décidèrent de consacrer la deuxième partie de la semaine à l'audition des voyageurs. Le mercredi 17 septembre à midi, le planning se trouva bouclé. 26 rendez-vous se succédèrent jusqu'au vendredi soir. Il y avait 2 absents, M. Bin, décédé dans un accident de la circulation, et M. Chou Panli, qui se trouvait à l'étranger, pour le compte de son entreprise, un grand groupe pharmaceutique. Il serait auditionné ultérieurement. Les gendarmes, une fois de plus, ne décelèrent rien qui puisse laisser espérer le début de l'esquisse d'un indice. La piste de Dragon Voyage venait de faire chou blanc. 20 heures sonnèrent au carillon de la chapelle ce vendredi soir, lorsqu'ils terminèrent le recoupement des entretiens. Aucune des personnes entendues ne répondait au profil d'un assassin. Il s'agissait pour la plupart de braves pères de famille qui avaient pris quelques vacances au pays de leurs ancêtres. Les lumières du bureau s'éteignirent tard ce soir-là. les deux complices examinèrent absolument chaque détail. Vers la fin de journée, les noms s'embrouillaient dans leur esprit. Ils mirent fin à leur séance de torture, se souhaitèrent un bon week-end et fermèrent la porte avec plaisir.